Que s'est-il passé sur cette croix du calvaire à Golgotha? Est-ce que sur cette croix, on a simplement vu un homme mourir dans d'atroces souffrances? Est-ce qu'on a vu un être un peu fataliste se laisser crucifier par la vindicte des hommes? Pas du tout. Lorsqu'on regarde la mort de Jésus-Christ sur cette croix, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit une personne extraordinaire qui agit, qui parle librement, comme s'il n'était pas cloué sur cette croix. On voit une personne divine qui manifeste l'amour de Dieu autour de lui, alors qu'il est le sujet de la pire des haines. On voit aussi un agneau qui meurt en sacrifice pour les hommes. J'aimerais regarder dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, quelques versets qui dépeignent les dernières heures de Jésus-Christ sur cette croix. Depuis ce temps, la croix est devenue presque un bijou que l'on porte autour du cou, qui est orné dans certaines églises de toutes sortes de pierres et d'or et d'argent. Mais il faut se rappeler que la croix est un poteau de torture. Ce n'est rien d'autre qu'un poteau de torture où l'on humiliait et faisait souffrir les malfaiteurs au temps de Rome. Dans le verset 32 de Luc 23, nous lisons ceci. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Quelle scène extraordinaire! Jésus est crucifié avec deux malfaiteurs, c'est-à-dire deux criminels arrêtés par les Romains pour avoir commis des crimes, condamnés à mort et amenés au lieu du Golgotha, le lieu du crâne, qui était un lieu réservé aux crucifixions. Pourquoi ? Parce que c'était une colline qui surplombait Jérusalem, qui avait une forme certainement de crâne, hein, avec des trous dans le rocher, et de cette d'en bas de la colline, on pouvait très bien voir les crucifiés. C'était vraiment un lieu de spectacle. Ce qui est étonnant, c'est que 700 ans avant qu'il naisse, un prophète qui s'appelle Ésaïe avait prophétisé que Jésus serait mis à mort avec des malfaiteurs. En Ésaïe 53, 12, je lis ceci. « Il s'est livré lui-même à la mort, il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Ce matin, si vous êtes un pécheur, une pécheresse, si vous êtes coupable, sachez que Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs pour vous, pour moi. C'est-à-dire que lui qui était saint et juste, qui n'a jamais dit une parole de trop, qui n'a jamais fait un geste mal placé, qui a été parfait dans toute sa vie, qui n'a fait que du bien en permanence, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Pourquoi ? Pourquoi crucifier quelqu'un qui vous fait du bien ? Quelqu'un qui vous veut du bien ? Quelqu'un qui vous dit « Je suis venu par amour pour vous gracier, pour vous apporter la bonne nouvelle ?» Pourquoi le crucifier ? Pourquoi le haïr ? Il y a d'abord, de notre part, nous les hommes, une ignorance de la mission de Jésus-Christ. On ne réalise pas que Jésus-Christ est venu nous apporter le salut. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais athée, quand on me parlait de Jésus-Christ, ça me dérangeait. Rien que d'entendre le nom. On pouvait dire Dieu, le bon Dieu, ça passe. C'est politiquement, religieusement correct. Mais Jésus-Christ, déjà en français, hein, il y a cette prononciation Christ, c'était quelque chose qui me dérangeait profondément. Mais pourquoi ? Parce que j'avais été élevé dans la religion catholique et j'avais vu ce Christ et on m'avait dit qu'il était venu pour le jugement, pour les pécheurs, mais on ne m'avait pas assez visiblement expliqué qu'il était venu me sauver de mon péché. C'est quand j'ai compris que Jésus était venu me sauver que j'ai commencé à le considérer. Jusque-là, j'avais peur de lui. J'étais dérangé par lui. Et je pense que c'est pour ça que les hommes l'ont crucifié. Il y a une autre raison aussi, c'est que c'était un aveuglement spirituel qui venait de Satan. Alors que Jésus est venu nous sauver, on le rejette. On se moque de lui, on le méprise. Il suffirait de faire un rapide sondage dans les rues de Paris. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ ? Est-ce que vous voulez que Jésus-Christ vous sauve ? D'après vous, quelle réponse aurions-nous en majorité ? Oh, ne me parlez pas de religion. La religion, c'est privé, c'est personnel, c'est intime. Et puis Jésus-Christ, ce n'était qu'un homme bien, mais on en a fait toute un pataquès. Et puis, vous auriez toutes sortes d'arguments. Mais il y aurait très, très peu qui diraient « Oui, j'aime Jésus-Christ parce qu'il m'a sauvé. » Très, très peu, malheureusement. Parce qu'il y a un aveuglement spirituel. Et nous prions, et ce message est aussi pour ceux qui vivent cet aveuglement, pour que vous ouvriez les yeux. Pourquoi Jésus-Christ est mort sur cette croix ? C'était pour vous, par amour pour vous. En prenant la place des malfaiteurs aussi, Jésus a voulu prendre notre place. Il s'est identifié à nous. Souvent on dit, mais Dieu est loin, il ne comprend pas mes problèmes, mes tentations. Si, il les comprend très bien, parce qu'il est devenu un homme en la personne de Jésus. Jésus a été tenté comme nous, en toute chose, dit la Bible. Mais lui, il n'a jamais failli, il n'a jamais cédé à la tentation. Mais en étant crucifié avec des malfaiteurs, il a dit, je suis aussi un malfaiteur. Je meurs à la place des malfaiteurs. Maintenant, si vous êtes ici ce matin et que vous dites, moi je suis quelqu'un de très bien, je ne suis pas un malfaiteur, vous vous trompez vous-même. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il se trompe lui-même et la vérité n'est pas en lui. Nous sommes tous pécheurs, tous injustes. Vous êtes peut-être quelqu'un de bien à côté d'un criminel notoire, mais à côté de Jésus-Christ, vous êtes un pécheur profond, coupable, gravement coupable. Et le seul moyen d'être sauvé, pardonné par votre Créateur, c'est d'accepter, de comprendre que Jésus-Christ a pris votre place de malfaiteur. Les soldats ont attaché Jésus, l'ont placé sur cette croix, ils le plaçaient à l'horizontale par terre et il plantait les clous. Il y avait un clou dans la main droite, un clou dans la main gauche, et un seul clou qui traversait les deux pieds. On a retrouvé des restes, des ossements de crucifiés, et on a vu comment les Romains procédaient. Jésus a été percé de clous. On a du mal même à imaginer tellement c'est horrible. Ce qui est étonnant, c'est que dans le psaume 22, écrit par David 1000 ans avant Jésus-Christ, il avait prophétisé que le Messie allait souffrir ainsi. Psaume 22, verset 16. Ma force dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. 1000 ans avant Jésus-Christ, sachant que la crucifixion n'existait pas lorsque David a écrit ces mots. Et au moment où on lui perce les mains et les pieds, qu'est-ce que Jésus-Christ dit, verset 34 de Luc 23, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Essayez d'imaginer, vous êtes allongé par terre sur ce morceau de bois, et ça y est, vous avez le clou qui arrive. C'était des clous de cette taille, ce n'était pas des aiguilles. C'était des gros clous, parce qu'il fallait tenir le poids du corps. Il arrive à Massue, il met le clou bien dans la paume, et là vous dites, ça y est, je vais en baver. Et à ce moment-là, quand il plante les clous, Jésus dit, pardonne-leur. 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 Au lieu de réagir avec vengeance, avec haine, avec, je ne sais pas, dépit, en criant de douleur, il crie, Père, pardonne-leur. S'il n'y a pas là l'amour de Dieu, il n'y a aucun amour qui existe dans l'univers. De dire au Père, pardonne-leur, ne leur tiens pas rigueur de ce qu'ils sont en train de me faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai, quand on rejette Jésus-Christ, souvent on ne réalise pas ce qu'on fait. On a des a priori, on dit oui, mais regardez ce que l'Église a fait dans tous les siècles. Mais il ne s'agit pas de l'Église et de son histoire, il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de l'Évangile. L'Église a malheureusement, certaines Églises ont perverti l'Évangile. Ça, c'est vrai. Mais l'Évangile, il est pur. Jésus-Christ est pur. Et il est toujours vivant. Il peut aujourd'hui vous sauver. Et puis, quand on l'a cloué, on a remonté la croix. Et Jésus était juste vêtu d'une culotte. Pour le reste, il était nu. Et toute la foule était rassemblée là. C'était le spectacle de la semaine. On allait voir une crucifixion. La crucifixion était faite pour être vue en spectacle. La personne agonisait pendant des heures. Elle mourait à petit feu. Et la foule amenait son pique-nique. On amenait les enfants et on s'asseyait, on regardait. T'as vu, oh, lui, il a l'air. Oh, lui. On faisait des paris, lequel allait mourir le plus tôt. Et là, ce qui se passe, c'est que les magistrats et les soldats se moquent de Jésus. Toujours dans le psaume 22 que j'ai cité tout à l'heure, il y a ces versets prophétiques, encore une fois, 8-9, versets 8 et 9 du psaume 22. Où l'Esprit de Jésus annonce à l'avance, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommandent-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Et le verset 18, « Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Est-ce que vous réalisez que cette phrase a été écrite 1000 ans avant Jésus-Christ, et que quand Jésus-Christ a été crucifié, les soldats ont pris sa tunique et l'ont partagée, l'ont tirée au sort. La probabilité pour qu'une prophétie s'accomplisse comme ça est nulle. S'il n'y avait pas la puissance, la sagesse de Dieu, il n'y aurait pas de prophétie comme ça. Jésus est moqué, Pourquoi se moque-t-on de lui? Parce qu'il paraît faible sur cette croix. Et voilà, lui qui se disait fils de Dieu, lui qui disait « Je suis le Sauveur, le Messie », il est là, cloué sur cette croix, incapable de descendre, incapable de faire un seul geste en apparence. En fait, il fait beaucoup de choses sur cette croix, mais en apparence, il a l'air faible. Et pour les hommes, la faiblesse est un péché. Souvent, quand je parle avec des personnes qui ne croient pas au Seigneur, ils disent « Mais moi, je n'ai pas besoin d'une béquille dans ma vie. » Les chrétiens, c'est des gens qui ont besoin d'une béquille, c'est des faibles. Pensez vraiment que les chrétiens sont des faibles. Alors vous ne connaissez pas les vrais chrétiens. Les premiers chrétiens sont tous morts pour leur foi. Il y a encore aujourd'hui dans le monde entier des personnes qui sont prêtes à mourir pour leur foi, pour l'honnêteté, pour la justice, pour l'amour de Dieu. Quelqu'un qui est prêt à mourir, ce n'est pas quelqu'un de faible. Hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement courageux parce qu'il est prêt à affronter la mort pour ses convictions. Les chrétiens sont courageux aussi parce qu'ils affrontent ce qu'ils sont face à Dieu. Il y a tellement de gens qui se cachent, qui ne veulent pas avouer leurs travers, leurs torts, ce que la Bible appelle les péchés. Le chrétien, lui, c'est quelqu'un qui dit « Moi, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que c'est de ma faute si j'ai des problèmes. Ce n'est pas la faute du monde entier, c'est moi le problème. Et je me repens et je demande pardon à Dieu. Et Dieu nous pardonne et nous transforme. » Ce n'est pas de la faiblesse. Il y a aussi des situations où vous découvrez que vous avez besoin de Dieu. Malheureusement, c'est souvent ce qui arrive. Il faut qu'il nous arrive des situations terribles pour qu'on commence à penser à Dieu. Tant que tout va bien, on dit « mais je n'ai pas besoin de Dieu, moi ». Oui, mais tu n'as pas besoin de Dieu. Et la mort ? Oh, mais la mort, on verra bien. Et la maladie ? Pour l'instant, je touche du bois, je suis en bonne santé. Parce que le bois, ça vous protège ? Vous croyez que c'est le bois qui vous garde en bonne santé ? Et le jour où on est malade, le jour où on est au chômage, le jour où on est près de la mort, là on réalise notre petitesse, notre faiblesse, notre fragilité. Qu'est-ce que l'homme, hein, une poussière ? Et là on réalise que s'il n'y avait pas un créateur, un Dieu, on serait sans espoir. Vous savez, il y a des gens qui, comme on dit, ont de la malchance. Ils ont des problèmes familiaux, des problèmes au travail, des problèmes de santé. Ils ont tout en même temps. Quelquefois, ils sont accusés injustement. Et tout s'effondre, tout leur univers s'effondre. Ils se disent, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Si on n'a pas Dieu dans cette situation, on est seul. Et souvent, les personnes se donnent la mort pour échapper à la situation. Mais quand on a Dieu, on a une sortie, on a une espérance, on a une force. L'homme a besoin de Dieu. C'est ce que la Bible annonce. On se moque de Jésus et on se moque de lui parce qu'il y a une inscription qu'on a placée au-dessus de sa tête. Pour tous les crucifiés, il y avait la sentence de mort qui était écrite sur un petit panneau de bois. Et là, c'est écrit en trois langues pour que tout le monde puisse bien lire. Jésus, roi des Juifs. Pourquoi Pilate a voulu qu'on écrive Jésus, roi des Juifs ? Mais c'était une moquerie d'abord. Parce que Pilate méprisait profondément les Juifs, hein. C'était un Romain antisémite, comme beaucoup de Romains. Il était gouverneur à Jérusalem et en Judée, et c'était pour bien faire souffrir les Juifs. Et en mettant roi des Juifs, il dit « Voilà votre roi, ce que j'en fais. Votre roi, il est là, faible et crucifié. » C'est aussi une intimidation. Le prochain Juif qui dit « Je suis roi des Juifs », voilà où il va finir. C'est une menace, hein, une intimidation. Mais d'un seul coup, les malfaiteurs se mettent à parler avec Jésus. Il y en a un qui se moque de Jésus comme les autres. Et ça, c'est étonnant. Quelqu'un qui est crucifié à côté et qui trouve le temps et la force de se moquer de Jésus. Il faut vraiment être dans l'aveuglement, hein, dans la haine. Mais l'autre malfaiteur dit « Tais-toi !» Nous, nous avons mérité d'être là. Nous sommes des criminels. Mais lui ne l'a pas mérité. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il avait compris que Jésus n'était pas un malfaiteur, mais que Jésus était le Fils de Dieu annoncé dans les prophètes. Il était le Sauveur, le Roi le vrai roi des Juifs, oui. Et il a dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Qu'est-ce que ça voulait dire cette phrase? C'est que ce malfaiteur savait que Jésus n'allait pas rester sur cette croix indéfiniment, qu'il allait ressusciter et revenir apporter son royaume, établir son royaume, pardon. Et donc il avait cette foi extraordinaire sur une croix, hein, d'avoir la foi comme ça, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi, où? Dans le paradis. On va mourir tous les deux aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu vas entrer dans le paradis. Ça veut dire qu'après la mort, il y a la vie éternelle, et que ceux qui croient en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, ont la vie éternelle et sont sauvés, vont au paradis. Quant aux autres qui ne croient pas, qui rejettent Jésus-Christ, ils rejettent le seul moyen d'entrer au paradis, la seule porte, le seul chemin. Et ils se condamnent même à aller en enfer. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. C'est pour que personne n'aille en enfer. C'est pour que tous aient une chance. C'est pour ça que Christ a accepté d'être cloué sur cette croix. C'est pour qu'on puisse être sauvé. Pour qu'on n'aille pas en enfer. Mais celui qui, en voyant Jésus sur la croix, continue de se moquer, celui-là, il outrage le nom même de Dieu. Il foule aux pieds le sacrifice de Christ. Il n'y a pas de pardon pour une telle personne. Il n'y a pas de pardon pour celui qui foule aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ. Peut-être vous êtes un de ces malfaiteurs, je ne sais pas lequel, j'espère que c'est celui qui croit. Mais on est tous dans les deux camps là. Quelque part, ces deux malfaiteurs représentent l'humanité. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Ceux qui acceptent le Seigneur, ceux qui le rejettent. Et il faut choisir son camp. Et la conséquence qui en découle. Après cela, nous avons lu que 3 heures de ténèbres sont tombées en plein midi. Entre midi et 15 heures, il y a eu des ténèbres totales. Et là, la foule a commencé à paniquer, à avoir peur. C'était quelque chose dit totalement, évidemment, inhabituel, miraculeux. Il n'y avait pas d'éclipse, pas de nuages. Et devant ces ténèbres, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces ténèbres? Et juste après ces ténèbres, dans Matthieu 27, 46, Jésus prononce un cri, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En araméen, « Eli, Eli, lama sabachthani. » Pourquoi Jésus dit, « mon Dieu, tu m'as abandonné ?» Parce que pendant ces 3 heures de ténèbres, le Père a condamné, a frappé le Fils de sa colère. Christ a porté nos péchés. La Bible dit qu'il est même devenu péché pour nous. Tous nos péchés, et que ce soit les gens de son époque, les gens d'avant ou les nôtres aujourd'hui, tous les péchés étaient sur Jésus-Christ. Et le Père l'a frappé et l'a condamné. Pour vous et pour moi. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, il y a ces paroles extraordinaires, 700 ans avant Jésus-Christ. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ les péchés, les fautes de nous tous sur cette croix. Juste après cela, dans l'évangile de Jean 19:30, est mentionnée la dernière parole de Jésus. Tout est accompli. Dans Luc, c'est l'avant-dernière parole, quand il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus n'est pas emporté par la mort. Non, Jésus remet son esprit à son Père. Et quand il remet son esprit, il dit « Tout est accompli. » Ça veut dire « J'ai tout payé. » Toute la dette des péchés est payée. Maintenant, ceux qui croient en moi pourront être graciés. pour prendre l'image des banques, puisqu'on en parle beaucoup dans l'actualité. Si vous avez une énorme dette à la banque, imaginez que vous avez investi dans du Madoff, toutes vos économies sont parties en fumée et vous devez des centaines de milliers d'euros, c'est un cas hypothétique, que vous ne pouvez absolument pas rembourser, vous avez un certain âge, vous n'allez jamais plus avoir assez d'argent, gagner assez d'argent pour rembourser, vous n'avez plus aucun bien, tout a été saisi, vous êtes sans le sou et vous devez des centaines de milliers d'euros. Et d'un seul coup, quelqu'un vient vous voir et dit « J'ai payé ta dette ». Vous dites « Mais je ne vous connais pas, qui êtes-vous ? » Je suis ton sauveur, j'ai payé ta dette. Mais pourquoi avez-vous fait ça? On ne se connaît pas, je n'ai rien fait de spécial. Parce que je t'aime. Je te connais, moi. Toi, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais, je t'aime. J'ai tout payé, j'ai tout accompli. C'est ce que Jésus-Christ nous dit quand il dit « Tout est accompli, j'ai tout payé pour toi ». Mais pour que cette dette soit payée, il faut qu'il nous donne un chèque et qu'on mette ce chèque à la banque. Si vous gardez le chèque et que vous le mettez dans un cadre, que vous regardez sur votre mur en disant oh, « On m'a donné un chèque, regardez, il y a 300 000 euros dessus !» Qu'est-ce qu'on va penser de vous? Que vous êtes stupide. Et on aura raison. Ce chèque, il faut l'amener à la banque et le toucher. C'est la même chose avec la foi. Le Seigneur Jésus nous accorde le pardon de nos péchés, mais il faut le toucher à la banque du ciel. Il faut aller voir le Seigneur et dire « Seigneur, à cause de Jésus-Christ, ou plutôt grâce à Jésus-Christ, je viens recevoir la vie éternelle que tu as promise. Je viens recevoir le pardon de mes péchés. » On ne vient pas en son nom en disant « Écoute, je suis quelqu'un de bien, il faut que tu me pardonnes maintenant. » Je peux vous dire, si vous parlez comme ça à Dieu, il ne va rien se passer. Mais si vous venez en disant « Je suis coupable devant ta loi sainte, devant la Bible, devant ma conscience, mais Seigneur, je crois que Jésus est mort pour moi, qu'il a payé ma dette », là vous pouvez être pardonné et sauvé. C'est la promesse de Dieu. C'est ce que j'ai expérimenté moi-même. Après avoir rendu l'esprit, le centurion, qui était un homme extrêmement dur, qui gardait la croix, a dit « Assurément, cet homme était juste ». Et ailleurs, il est dit, cet homme était fils de Dieu. Quand on voit Jésus-Christ sur la croix, on ne pense plus que c'est simplement un homme qui a eu de la malchance. On pense que c'est le fils de Dieu qui meurt pour nos péchés, l'agneau de Dieu. Est-ce que c'est ce que vous croyez? Est-ce que c'est ce que vous pensez? On va terminer ce moment par la prière.